marche de l'histoire, du lundi au vendredi sur France Inter à 13h30.
Ici, Londres. Les Français parlent aux Français.
Franck Boer, le dernier speaker des Français parlent aux Français.
Le 2 juillet 41, jour de mon anniversaire, j'ai obtenu de Jacques Duchesne le privilège d'annoncer le grand programme du soir, le programme de 21h30, qui s'intitulait « Les Français parlent aux Français ». Et donc, j'avais l'ambition de présenter ce programme, et Duchesne y a consenti, à la condition que je sois fidèle au poste. Il voulait que les voix qui parlaient à la radio soient bien identifiées par les Français. Par conséquent, il n'aimait pas qu'on se fasse remplacer.
Ce sont nos maîtres. Face à Radio Vichy et à Radio Paris, ils avaient fait le choix d'un pacte de confiance avec l'auditeur. En exergue des Français parlent aux Français, 5 minutes étaient réservées au général de Gaulle et généralement dévolues à Maurice Schumann, honneur et patrie. Mais ensuite, combien de fois le bulletin d'information proprement dit n'a-t-il pas commencé par « Ce soir, les nouvelles ne sont pas bonnes ». Tout n'était certes pas dit, les superviseurs anglais y veillaient, mais on ne voulait pas s'appuyer sur des nouvelles fausses ou trop vite affirmées. La fiabilité comptait davantage que la célérité. Avec Radio Paris, qui très inventive a les bons trains, une course de vitesse se jouait cependant, mais sur le rythme des émissions. Les Français parlent aux Français étaient animés par un homme venu du théâtre, Jacques Duchesne, qui savait comment retenir l'attention. Les méthodes des radios commerciales d'avant-guerre avaient été mises à contribution. Une fois le point fait sur la situation militaire et politique, et après les messages personnels, si énigmatiques, étaient diffusés en enchaînement continu, des commentaires, des interviews, des chansons, des sketchs, et l'humour n'était jamais loin, jamais trop appuyé non plus. L'auditeur en France occupée risquait gros en écoutant Radio Londres, ce n'était pas pour rigoler à gorge déployée. Ils étaient une quarantaine, essentiellement des hommes, il y avait tout de même Geneviève Brissot, plus parisienne tumeur, et Myriam Sandrard, la fille de l'écrivain. Jacques Duchesne fumait sa pipe en maintenant les équilibres, jamais très loin des Anglais, toujours distant du général de Gaulle. Dans la fumée de ses cigarettes, le jeune Pierre Bourdan expliquait que l'homme avait besoin de plusieurs litres de vin par jour. L'immense Jean Marin buvait comme un pêcheur breton. D'autres sont moins connus aujourd'hui. Ainsi, Paul Boniface, qui avançait le ventre en avant, précédé d'un invraisemblable sac de voyage, il proclamait haut et fort, j'étais simple employé de l'octroi, la République m'a permis d'entrer à la Comédie Française, je viens payer ma dette. Boniface était l'un des doyens, Franck Boer, un des benjamins. Il est resté 2 ans à partir de 1941. Avant de retrouver Mi-44 Radio Londres, il y découvrit Pierre Dac, qu'il avait rejointe en 1943. C'était pas rien que de lui donner la réplique. Il s'était promis de vivre jusqu'à 100 ans. Il a presque atteint l'objectif. Il était le dernier des Mohicans.
La marche de l'histoire. Jean Lebrun sur France Inter.
On verra qu'à Radio Londres, Franck Boer a réussi à imposer une émission de jazz. Parce que depuis l'enfance, il baigne dans la musique. Et en contrepoint de ses parents qui font de la musique de chambre chez eux à Troyes, il s'est choisi son domaine, le jazz. Pendant une tournée à Paris, il n'a pas quitté d'un pouce Louis Armstrong. Il est ami de Grappelli. Il lui est même arrivé d'accompagner Django Reinhardt, qu'il préfère à la batterie plutôt qu'au piano. En juin 1940, il a 22 ans. Plus de piano, plus de batterie, juste un vélo. Il quitte la Bourgogne. Il rejoint en une semaine, à raison d'une centaine de kilomètres par jour, la côte atlantique. Il embarque sur un cargo polonais à Royan, direction Londres. Il a alors le choix entre l'uniforme anglais et celui de la chétive France Libre. Il choisit le second, sans en savoir grand-chose, parce que la guerre est faite de hasard. Franck Boer a très mauvaise vue, il s'est très mal défilé, mais les Allemands cherchent à ce moment à passer la Manche. L'équipe des Français parlent aux Français, qui débute, les moque, mais dans Londres, la ville seule au monde, sous le Blitz, toutes les volontés sont utiles. Franck a peur des bombardements. Et alors, c'est déjà courageux de le dire.
Vous rappelez-vous la chanson ? Sur le pont de Londres, un bal y est donné.
Sur le pont de Londres, un bal y est donné.
Hitler demande à Göring d'y aller.
Hitler demande à Göring d'y aller. traverser.
Le Pas-de-Calais est dur à traverser.
Le Pas-de-Calais est dur à traverser.
C'est difficile à Londres d'arriver.
C'est difficile à Londres d'arriver.
Quelques soldats d'abord sont envoyés.
Quelques soldats d'abord sont envoyés.
Sur des bateaux, trois par trois enchaînés.
Sur des bateaux, trois par trois enchaînés.
À peine partis, les Vlais qui sont noyés.
À peine partis, les Vlais qui sont noyés.
Voilà ce que c'est que de pas savoir nager.
Voilà ce que c'est que de pas savoir nager.
Je me suis trouvé un jour sur un toit, peu de temps après être arrivé à Londres, j'étais de service, de garde sur un toit pour lutter contre, pour éteindre des bombes incendiaires, par le Blitz, bien entendu. Et là, je monte sur le toit et je dis au garçon qui accueille, tu sais, il faut que je t'avoue, j'ai la trouille. Et il m'a dit, tu sais, tout le monde a la trouille sous le Blitz. Mais si tu fais quelque chose comme tu vas faire ici, à veiller au grain, eh bien, tu n'auras plus la trouille. Parce que à ce moment-là, tu luttes contre Hitler. Et quand tu luttes, tu n'as plus la trouille. C'est quand tu n'as rien à faire que tu as peur.
Et en même temps, et ça vous le racontez très bien, parce que vous racontez ce quotidien du Blitz à Londres, vous racontez cette anecdote incroyable à une station de bus où il y a eu une bombe qui tombe pas loin, vous vous précipitez à terre et vous vous rendez compte que votre voisin anglais qui attend le bus avec vous n'a pas bronché.
Et il a, non seulement il n'a pas bronché, mais il était tout confus de ne pas avoir bronché. Et il m'a regardé et m'a dit « Excuse me, excusez-moi ». Parce que moi, je m'étais couché et il avait fait preuve involontairement d'un sang-froid que je n'avais pas eu. Et voilà, et ben, effectivement, les Anglais ont été très, très... Il faut dire que leur civilisation est différente de la nôtre et de ce que je peux voir. Par exemple, en Angleterre, les morts sont enlevés très rapidement. Il n'y avait pas de cérémonie. Comme il n'y a pas d'enterrement, il n'y avait pas de deuil et on ne faisait pas le deuil.
Frédéric Bonneau interrogeant Frank Boer. On avait proposé à Churchill pendant le Blitz de fermer les théâtres. Il aurait répondu « Mais c'est justement pour que les théâtres restent ouverts que nous faisons la guerre ». C'est ainsi que les salles de spectacle ont poursuivi leurs activités impavides et parmi elles, les boîtes de striptease du quartier de Soho. Frank Boer fut toujours un homme, comment dire, entreprenant et on aurait pu imaginer qu'il fréquente au moins la plus célèbre d'entre elles.
Je ne suis jamais allé au Windmill parce que je n'avais pas assez de sous. C'était réservé aux permissionnaires et aux soldats. Non, je ne suis jamais allé voir les strip-teases du Windmill. D'abord, j'ai toujours préféré les strip-teases faits à mon intention personnelle. Donc, dans une boîte, ça ne m'intéressait pas.
One plus one, disait-il volontiers, par exemple, avec Joanne.
C'était une jeune fille de la banlieue londonienne, de classe... plus que moyenne, mais charmante et d'une allure distinguée, parce que fine, irlandaise, avec de jolies attaches, et elle s'exprimait très agréablement. Elle n'était pas d'une culture très profonde, et ne cherchait pas à le devenir d'ailleurs. Elle ne mettait pas à profit de sa rencontre avec moi pour approfondir sa connaissance de la civilisation française. Mais ça, je le comprenais très bien.
Pourquoi parlez-vous de cela, me direz-vous? Parce que, quand vous discutiez avec des Français libres, ils vous racontaient très vite les soirées, les potins, les amours, les cuites, les bagarres. Les hommes de l'île de Sein, en la matière, avaient forte réputation. Ils étaient partis en masse, en juin 40, les premiers mois, ils n'avaient pu donner de nouvelles de l'été. Et une nuit de septembre, Frank Boer est débarqué dans l'île avec en guise de valise diplomatique les lettres que les Sénans ont été invités à adresser à leurs femmes. Difficile d'imaginer ce qu'elles disaient, ce qu'elles cachaient. Installé à la maison Couillandre, en l'absence momentanée des Allemands, le jeune Boer reçoit le maire, le recteur, les femmes. Saint, il n'y a rien de plus loin de Berlin, rien de plus près de l'Amérique. En décembre, Boer, qui est maintenant entré dans les services secrets de la France libre, est envoyé dans les ports américains. Il parle très bien l'anglais, le jazz sans doute. On lui a donné une tenue de marin de commerce britannique. Il a fait le maître d'hôtel sur le bateau qu'il a amené. Il va travailler pour le compte de l'amiral Muselier. Le chef de la marine de la France libre est tenté de contrer les manœuvres que multiplient dans les ports américains l'amiral Robert, le gouverneur pétainiste des Antilles.
Cette proposition est liée justement à la prédominance de la marine marchande dans les forces françaises libres et le fait que la marine de Vichy, qui était spécialement stationnée en Martinique et avec des antennes aux États-Unis, avait essayé systématiquement et continuait d'essayer de faire déserter les marins français qui faisaient escale dans les ports américains. On allait, il y avait des groupes qui allaient parler à ces marins et même à ces officiers pour leur dire « Attention, vous êtes des déserteurs, vous servez le traître de Gaulle, le traître muselier, et vous serez considérés comme des déserteurs et fusillés, et notamment on va s'attaquer à votre famille. Alors vous reconnaissez les faits et vous nous ralliez et vous renoncez à vos erreurs, à ce moment-là, on va tout vous pardonner, vous rentrerez en France, vous n'aurez pas d'ennui et votre famille sera prise en charge, autrement vous pouvez vous attendre à tout. » Donc il y avait des gars qui risquaient de paniquer. Il a fallu monter une contre-offensive contre ça. Mais à l'époque, l'Amérique était un pays inimaginable pour un jeune Français. Tout, les voitures, la circulation, les feux de circulation, la manière dont tout ça fonctionnait, les autoroutes que nous ne connaissions pas. Il y avait que les Allemands qui avaient des autoroutes à l'époque. Les gratte-ciels, bien entendu, la façon dont ça circulait dans les villes, les magasins extraordinaires avec une profusion de produits inimaginables, d'une beauté, des postes de radio qui avaient l'air de cathédrales, des choses comme ça. Moi, j'étais stupéfait par ça, j'avais jamais vu quelque chose d'aussi beau.
On vous propose aussi de vous confesser dans des centres de confession ultramodernes qui vous impressionnent.
Ah ben, qui m'impressionnent. Qui me stupéfie, c'est-à-dire que on faisait des confessions en masse. Je savais pas ça. On m'arrête dans la rue avec un tract en me disant « Pauvre pécheur, ne restez pas dans votre état, confessez-vous. Grande séance de confession avec musique. » Je me suis dit « Ça, c'est formidable. » Et en même temps, on vous sert de quoi boire, je pense. Je pensais qu'on allait me servir une boisson américaine bien connue. Et donc, j'arrive là et on demandait aux gens avez-vous péché par la chair ou avez-vous péché par la gourmandise, etc. Alors les gens disaient oui, j'ai péché.
Péché par la chair, c'était pas votre genre, Franck Bauer, vous n'aviez pas le temps, vous aviez une mission. Si, cependant, Kate.
Oh bah écoutez, d'abord j'ai toujours été assez sensible à la beauté un peu colorée. Et donc ces belles américaines, parce qu'il y a, la ségrégation en Amérique, ça existe, mais le métissage, ça existe au moins autant. Donc il y avait beaucoup de très jolies filles à des degrés de couleurs différentes et qui étaient très attirantes. Donc mais j'ai connu une femme quand j'étais à Nouvelle-Orléans qui était une collaboratrice du consulat de France. Cette femme était une créole, c'est-à-dire une blanche d'origine franco-espagnole, avec peut-être un petit métissage qu'on ne connaissait pas, mais en tout cas, les créoles sont considérés en Amérique comme des blancs. Ce ne sont pas des colored people. Et elle, contrairement à ce qui se passe souvent dans ces cas-là, luttait contre la ségrégation raciale. Elle luttait pour les Noirs. Ce qui m'avait beaucoup séduit. Et c'est elle qui m'avait mis en garde contre les gens que je devais rencontrer là-bas, qui étaient les représentants de la marine de Vichy.
La marche de l'histoire, Jean Lebrun sur France Inter.
À la Nouvelle-Orléans, Franck Bauer a fait un pèlerinage sur les pas de Louis Armstrong qu'il avait connu à Paris. Il a écumé les clubs de jazz, on entendait Duke Ellington qu'il a écouté passionnément à cette époque. Mars 41, il est de retour à Londres. Il va rejoindre Stéphane Grappelli qui vit en Angleterre depuis dès avant la défaite. Chez Yvonne, le rendez-vous nocturne des Français libres, il tient souvent le piano et c'est là qu'un homme grand, un peu claudiquant, va prendre langue avec lui. C'est la tête chercheuse des Français parlent aux Français.
Je dîne avec Oberlé, que je ne connaissais pas. et qui me fait parler, raconter un petit peu mes aventures au service secret de l'offensive, ce que je pouvais en dire, qui n'était pas très gros, puisque j'étais astreint, bien entendu, à la plus grande confidentialité. Et Jean me dit, bon, ben, vous avez une bonne voix qui passerait bien la rampe, est-ce que ça vous intéresserait de rentrer dans l'équipe de Londres, de l'équipe de la BBC? J'ai dit immédiatement oui, et on m'a fait passer des tests de voix pour savoir si ma voix passait à travers le brouillage, qui était le principal critère. Et après 2-3 essais, ça fonctionnait très bien, donc j'ai été engagé à la BBC comme speaker du programme du soir.
Et voici pour terminer un résumé des principales nouvelles de la journée. Dans la région sud-ouest de Krivoïmog, la forte pression des troupes soviétiques s'est encore accentuée. Malgré plusieurs contre-attaques, les formations allemandes ont dû se replier avec de lourdes pertes. Dans les secteurs à l'ouest de Sibro-Grad, la violence de la bataille s'est encore accrue.
Ça a commencé en mars 1941, avec au départ des fonctions plutôt modeste, enfin, c'est-à-dire que je lisais des textes, j'enregistrais des textes, j'enregistrais des interviews, etc. Mais je n'annonçais pas encore le programme. Ce n'est que le 2 juillet 41, jour de mon anniversaire, que j'ai obtenu de Jacques Duchesne le privilège d'annoncer le grand programme du soir, le programme de 21h30 qui s'intitulait « Les Français parlent au français ». Nous étions une équipe de 40 personnes, presque tous des journalistes, presque tous, en tout cas des intellectuels, qui pouvaient être des chercheurs en matière militaire, des chercheurs en questions sociales, etc., de façon à alimenter les diverses rubriques du programme. Et puis des journalistes de grand talent, comme Pierre Bourdan, comme Jean Marin, et aussi, bien sûr, bien qu'ils n'appartiennent pas à notre section de la BBC, Maurice Schumann. Donc nous étions dans un milieu de journalistes avec tout le plaisir qu'on peut avoir dans ce groupe d'hommes qui étaient très curieux de tout, qui avaient un grand sens de l'humour et avec lequel la vie était assez intéressante. Et vous savez, puisque vous êtes du métier, qu'on n'enferme pas les journalistes. Donc c'était une ambiance de libre discussion et en même temps de discipline librement acceptée. Quand le patron Jacques Duchesne disait ben, « on fait comme ça », on finit, on lui obéissait toujours. Mais dans une ambiance très libre de discussion, de contestation, où chacun apportait son mot.
Franck Boer, est-ce que vous avez eu, au cours de ces longs mois passés dans les bureaux de la BBC, l'occasion d'approcher le général de Gaulle?
Le général de Gaulle, je crois, a parlé quelque chose comme 70 ou 80 fois au micro de la BBC. Donc, il m'est arrivé de me trouver en face de lui, mais j'ai jamais sans avoir affaire à lui, puisqu'il arrivait toujours avec son aide de camp ou avec Maurice Schumann, qu'il annonçait, et moi je parlais après. Donc je n'étais pas du tout dans la même ambiance que lui. Et il ne m'a jamais adressé la parole, et moi je ne lui parlais pas non plus.
Extrait de l'émission clé pour la mémoire de Franck Boer que nous célébrons aujourd'hui, les artisans de la chanson, Martin Penney, France Musique. Le général de Gaulle. Alors Boer aimait dire que de Gaulle ne provoquait pas d'effet Gulfstream autour de lui. Entendez qu'il ne réchauffait aucunement l'atmosphère. Un jour, on lui recommande d'être plus attentif avec le petit personnel. Aussi se penche-t-il en sortant de l'ascenseur vers le planton. « Et vous, mon ami, avez-vous des nouvelles de votre famille ?» Mais il a déjà tourner les talons sans attendre la réponse. Donc Franck Boer l'a introduit souvent au micro. Il a prononcé le sésame « Les Français parlent au français » 518 fois. D'autres créneaux que celui de 21h30 heure anglaise étaient à la disposition des Français. Myriam Sandrard, par exemple, animait une émission destinée aux enfants. Franck Boer en a guigné une qu'il a fini par obtenir des Anglais samedi minuit et demi. Une émission de jazz, bien sûr. Jean Berlé commentait « Il est persuadé que le jazz va aider les jeunes Français à résister. » Il est vrai que les Français parlent aux Français, tâtaient de tous les genres adaptés à l'époque.
De divertissement à proprement parler, il y avait quelques petites émissions comme « La petite académie » ou « Les trois amis » qui avaient tous pour objet, malgré tout, de traiter des problèmes d'actualité sous un aspect un petit peu plus souriant, un petit peu plus fantaisiste. La petite académie, on refaisait le dictionnaire d'académie en choisissant des mots comme l'occupation, comme la défaite ou la victoire, etc. Et donc ça permettait à chaque fois de donner une signification intéressante et qui avait trait à l'effort de guerre d'une manière drôle. Et la discussion des trois amis, c'est un peu la même chose. C'est des trois copains qui commentaient très librement la situation de la guerre, de leur vie à Londres, de la vie des Français, sous un mode beaucoup moins solennel que les chroniques.
Et quels étaient ces trois amis, les noms des présentateurs?
Ben, c'était les mêmes. C'était Duchesne, Pierre Bourdon et Oberlé, les trois amis.
Et voici maintenant la discussion des trois amis.
Les trois amis avaient le cafard ces jours-ci. Ce cafard qui nous prend si souvent en pensant à la France. Alors ils ont quitté Londres. Et savez-vous où vous allez les trouver? À Douvres.
Venez par ici, je vous le dis, c'est le meilleur chemin, c'est de là-bas qu'on verra le mieux.
Je te dis qu'on verra rien du tout, moi, de là.
On voit jamais rien, d'ailleurs.
Ah, ça y est, on peut même pas se mettre d'accord sur un chemin.
Tu peux t'installer sur un endroit invraisemblable, il y a du gravier, on peut même pas s'asseoir.
Mais c'est l'endroit le plus haut de la côte, si on a une chance de voir la France, c'est de là-bas.
Je te dis qu'on verra rien de là, mon vieux.
Tu veux t'embêter par les mouettes, on peut pas parler.
Il y a un promontoire qui cache tout.
Je m'assois, je ne marche plus.
Oui, ben ça, assieds-toi si tu veux, moi je continue.
Parlons de ces chansons de propagande qui étaient des slogans, écrites sur des airs connus par un membre de l'équipe qu'on n'a pas encore cité.
Qui était Maurice Van Mopez. Et Maurice Van Mopez avait une très grande culture musicale, il connaissait très bien toute la chanson française. Et il connaissait aussi très bien les opérettes. Donc dans ce vocabulaire d'opérette, il y avait de nombreux airs très amusants, même dans des choses d'Offenbach, dans toutes sortes de compositeurs français, qui comportaient des morceaux dont les paroles pouvaient être adaptées aux circonstances. C'était aussi la répétition qui faisait l'intérêt de ça, puisque ça passait régulièrement, ça finissait par rentrer dans les têtes. C'était aussi un petit élément de souffle entre des chroniques un peu sévères, de glisser quelques mots chantés ou non chantés qui venaient adoucir un petit peu la tendance en faisant rire les gens. Mais pas les faire rire trop longtemps parce que les gens n'étaient pas sous leur table à écouter la radio pour rire.
Quand la nuit tombe, voilà que les bombes sur l'Italie tombent en pluie. Il est bien mouché, notre pauvre Duce. Oui, ma parole, il ne fait plus mariole. Oh, pauvre Musso, quelle sale histoire. Oh, pauvre Musso, t'en fais une voix. Dis-moi pourquoi, de l'Italie, tu as fait une province nazie.
C'en est fini de l'Italie de Mussolini quand France Boer est envoyé, mi-43, animer la radio des Français libres de Tananarive avec dans ses bagages des dizaines et des dizaines de disques, de quoi doubler, tripler les heures d'antenne. Et c'est ainsi qu'à Madagascar, on va entendre Stéphane Grappelli. En veux-tu, en voilà. Et il fera toujours beaucoup de jazz, amenant, c'était épique en 1948, Dizzy Gillespie à Paris, il tiendra une maison de relations publiques et son fils lui aussi fait de la musique, il s'appelle Axel Boer, c'est lui qui a annoncé la mort à 99 ans de Frank Boer. L'émission était préparée par Adèle Kaito, Frédéric Martin, à la technique Nicolas Layani, la réalisation Audrey Ripouille.